Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Daniel Simonet, député de Paris, membre de la France Insoumise et de la NUPES. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce mardi est marqué par des mobilisations massives dans toute la France contre la réforme des retraites. Les sondages montrent que la grande majorité des Français refusent un départ à la retraite à 64 ans, un sujet qui n'est pas négociable selon Elisabeth Borne. La mobilisation des Français et le travail parlementaire que vous menez actuellement peuvent-ils faire reculer Emmanuel Macron sur la principale mesure de son programme présidentiel ?
Oui, et c'est tout l'enjeu. C'est vrai que la bataille des consciences est déjà gagnée dans le pays. On a vraiment une écrasante majeure partie de la population qui est opposée à cette réforme. Il y a même un sondage qui montre qu'il y aurait 93% des actifs qui sont contre cette réforme. D'ailleurs, il y a une majorité de la population qui serait pour, au contraire, la réforme à 60 ans. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre la population qu'on peut gagner. Alors, il y a déjà un soutien majoritaire également à la mobilisation, que ce soit aux manifestations et même aux grèves. Mais il faut continuer courageusement ces mobilisations. Vraiment bravo à celles et ceux qui font grève. On a des secteurs qui partent en grève reconductible. Et n'oublions pas qu'en novembre-décembre 1995, eh bien, le peuple avait gagné grâce à ces mobilisations. Et qu'y compris en 2019-2020, si le gouvernement a abandonné la réforme, c'est pas simplement parce qu'il y a eu la crise sanitaire. C'est d'abord parce qu'il y a eu des mobilisations qui l'ont empêché en fait de prendre à la va-vite la décision de la réforme qu'ils avaient prévue initialement. Hein. Donc le mouvement peut gagner, le mouvement donc doit gagner.
Daniel Simonet, qui a le plus à perdre si cette réforme des retraites était adoptée ? Vous avez récemment mentionné les caissières dans les supermarchés dont la pénibilité n'est pas reconnue.
Oui, déjà dans cette réforme, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a aucun travailleur, travailleuse dans ce pays qui ne va gagner une amélioration de sa situation grâce à la réforme. Au mieux, parfois, mettent-ils en place des petits articles qu'ils appellent du sucre pour atténuer les effets terribles de leur réforme. Mais bon, les grandes perdantes, c'est les femmes. Et les femmes des classes populaires. Parce que moi, je voyais, par exemple, vendredi matin, je soutenais les caissières de Monoprix. Il y avait aussi les caissières de Carrefour qui les avaient rejoints. Elles sont les grandes perdantes parce qu'elles ont des carrières assurées, parce qu'elles subissent souvent des contrats précaires, parce qu'elles subissent une pénibilité qui n'est pas reconnue, de gestes répétitifs avec des problèmes de santé et qui fait qu'elles ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans et encore moins jusqu'à 67 ans parce que, vous savez, on reporte l'âge à 64 ans avec cette réforme. Mais en fait, pour avoir toutes ces annuités, beaucoup vont être contraintes de travailler jusqu'à 67 ans. Donc c'est une situation catastrophique. Il faut savoir que les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, c'est 22%, mais les écarts de pension entre les femmes et les hommes, les femmes touchent 40% en moins de pension par rapport aux hommes. Et les femmes elles n'ont pas de carrière complète, vont devoir travailler en moyenne 9 mois de plus que les hommes pour pouvoir partir en retraite. Il y a beaucoup plus de femmes qui subissent notamment la décote ou qui travaillent au-delà de l'âge légal jusqu'à 67 ans pour essayer de s'en sortir.
Alors, le gouvernement a voulu répondre aux critiques de l'opposition sur le chômage des seniors en promettant de publier un index des entreprises qui emploient des salariés de plus de 55 ans. Pensez-vous que la mesure est de nature à limiter le chômage des seniors ?
Non, et c'est vraiment un gros pipeau parce que on sait qu'il y a un taux de chômage des seniors qui est extrêmement important. Il faut savoir que quand les gens arrivent en retraite, il y en a presque 60% qui n'occupaient pas un emploi juste avant. Donc on sait que le chômage des seniors est une très grave problématique, et y compris le chômage longue durée. Là, le gouvernement, sur l'index des seniors, il demande quoi aux entreprises ? Parce qu'en fait, il s'est couché sur le MEDEF, hein. Le MEDEF refusait tout cadre contraignant et donc ils ont fait en sorte qu'il n'y ait rien de contraignant. Donc juste les entreprises vont s'engager à établir un index pour signaler le taux d'emploi des chômeurs dans leur entreprise. Mais je veux dire, ça ne les empêche pas de licencier à tour de bras les seniors, quoi. Enfin, je veux dire, en aucun cas, ça va être une mesure qui va contraindre les entreprises à ne pas licencier leurs seniors ou à embaucher les seniors. Donc ça n'aura zéro impact. Donc c'est vraiment une com foutage de gueule, quoi.
Alors, quelle est la conséquence d'un report du départ à la retraite à 64 ans, justement, pour une personne qui aurait aujourd'hui 55-56 ans, qui serait au chômage? C'est la baisse de sa pension? C'est le fait de vivre au RSA?
Parce que, en fait, si vous rallongez encore de 2 ans avant le départ à la retraite, et que vous êtes dans des situations de précarité et de bas salaire, eh bien, ce laps de temps de précarité et de bas salaire matériellement, enfin mécaniquement, s'allonge et donc va peser sur vos pensions. Donc vous allez voir vos pensions baisser. Donc c'est vrai que cette réforme, en fait, elle va aggraver les inégalités sociales et les inégalités de genre. C'est-à-dire que les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui ont des carrières les plus assurées, ceux qui subissent le plus le chômage et le RSA, qui vont grossir les rangs des travailleurs pauvres. Et il y a une mesure sur laquelle le gouvernement communique beaucoup, c'est la mesure soi-disant de pension à 1 200 €. Vous l'avez entendu comme moi. Bon, sauf que ces pensions à 1 200 €, elles sont d'abord c'est du brut et pas du net, et surtout elles sont conditionnées au fait d'avoir une carrière complète et de n'avoir jamais gagné plus que le SMIC. D'ailleurs, des médias ont essayé de faire une étude pour savoir, mais alors ça correspond à combien de personnes? On est à moins de 1000 personnes concernées. Donc vraiment, cette réforme, il n'y a rien de bon. Là, ce matin, on était en commission des affaires sociales. Le premier article, c'est la suppression, par exemple, des régimes spéciaux. Vous savez, par exemple, qu'en ce moment, on a des grosses difficultés à recruter des conducteurs de bus, de métro, de tramway, et que les conditions de déplacement dans la région Île-de-France se détériorent. Mais c'est un problème un peu partout en France, hein, aussi sur les TER. Et là, ils continuent en fait à casser les maigres avantages, les maigres droits qu'on peut avoir quand on est conducteur de bus. Et notamment, ils veulent casser le régime spécial de la RATP, où on reconnaît la pénibilité des chauffeurs et on leur permet de partir plus tôt à la retraite. Or, ça n'apporte aucune amélioration pour qui que ce soit de supprimer les régimes spéciaux. Ce qu'il faudrait au contraire, c'est reconnaître la pénibilité de plein d'autres métiers, comme celui des caissières dont on parlait tout à l'heure, pour qu'il y ait la reconnaissance de nouveaux régimes spéciaux adaptés, notamment aux travailleuses de première et seconde ligne, qu'on attend reconnues au moins symboliquement pendant le Covid, et qui, elles, se retrouvent sans rien aujourd'hui comme amélioration de leurs conditions de vie.
Daniel Simonet, vous l'avez dit, vous êtes membre de la commission des affaires sociales et à ce titre,
alors,
vous
Je ne suis pas membre de la commission des affaires sociales, moi je suis membre de la commission des affaires économiques, mais tous les députés peuvent assister et intervenir en commission des affaires sociales, et donc nous sommes nombreux et nombreux députés de la France insoumise à participer depuis ce matin à la commission des affaires sociales, puisque c'est le texte qui est étudié.
Alors, quelle est la nature des amendements déposés par la France insoumise et la NUPES? Vous avez décidé de ne pas faire d'obstruction, mais d'apporter des corrections à cette réforme, même si vous voulez l'annuler?
On assume complètement qu'on est dans de la résistance parlementaire. Donc, tous nos amendements doivent servir à éclairer le débat. Donc, nous avons, par exemple, des amendements suppression article par article, hein, puisque là, nous sommes contre les régimes, par exemple, la suppression des régimes spéciaux. Donc, on a des amendements de suppression. Et puis, on a des amendements qui permettent de mieux expliquer pédagogiquement pourquoi il y a ces régimes spéciaux, pourquoi c'est important de les préserver et même de les étendre. On a aussi beaucoup d'amendements sur la partie recettes, puisque le gouvernement prétend que sa réforme est liée à un déséquilibre des comptes. Donc, nous argumentons et nous utilisons notre temps pour argumenter sur le fait que le Conseil d'orientation des retraites lui-même, hein, dit qu'il n'y a pas de péril en la demeure, que le système d'ailleurs est excédentaire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème de finance, et à la limite, il y a un problème au niveau des recettes. Donc on a plein d'amendements sur les recettes, par exemple, bien arrêtons les exonérations de cotisations patronales et on a vraiment les recettes nécessaires pour arriver à l'équilibre des comptes. Faisons notamment l'égalité salariale homme-femme. Et ça ramène, par exemple, 8 milliards dans les caisses de retraite. Taxons, par exemple, les revenus du capital autant que ceux du travail. Hein, ça peut ramener 17 milliards dans les caisses de retraite. On a aussi des amendements également qui permettent de décliner pourquoi nous sommes pour la retraite à 60 ans. Donc, on est vraiment dans un travail à la fois de résistance par des amendements suppression, de démonstration qu'une autre réforme est possible, et surtout d'argumentation pourquoi nous ne voulons pas, pourquoi le peuple français ne veut pas le report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite.
Comment réagissez-vous à la déclaration de Marisol Touraine qui avait appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour et qui ne se satisfait pas de cette réforme des retraites ?
Eh bien écoutez, de toute façon, on n'était pas d'accord non plus avec la réforme de Madame Touraine. Hein, et donc, nous subissons également le reste. Mais sachez qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale est aussi intéressant dans le sens où, sur cette réforme-là, la Macronie pensait pouvoir réussir à mener des accords. Ils n'ont absolument aucun soutien du côté de la NUPES. Ils espéraient avoir des soutiens côté LR. Et en fait, du côté de LR, on se rend compte que la moitié des députés sont opposés à voter cette réforme. Vous avez le groupe Liot, qui sont plutôt des libéraux, bon, qui sont opposés, qui vont voter contre la réforme. Le RN va voter contre. Et vous commencez y compris à avoir des députés macronistes qui ne sont pas d'accord pour voter cette réforme. Donc ils sont dans une situation vraiment de fragilité, hein, de minorité présidentielle, de minorité numérique à l'Assemblée, d'ultra-minorité dans le pays. Et je pense que c'est aussi pour ça que Darmanin a réagi par insulte, provocation dimanche, et que Madame Borne essaie de faire croire qu'elle ne bougera pas et qu'aucune victoire est possible. Je pense au contraire que leur état fébrile nous montre que si on redouble de mobilisation, on peut gagner.
Vous êtes en train de nous dire que cette réforme peut être rejetée par l'Assemblée nationale compte tenu du rapport de force actuel.
Écoutez, c'est la grande interrogation. En tout cas, ils ne sont pas du tout garantis d'avoir la majorité aujourd'hui. Donc, il y a cette bataille dans l'Assemblée nationale qui se poursuit, mais la mobilisation dans la rue, dans les entreprises, dans les universités est déterminante. C'est ça qui pourra permettre à la fois de faire une pression sur les parlementaires ou bien de contraindre le gouvernement à retirer son projet. Et je vais vous dire, quand bien même il y aurait vote à la fin, ce que je ne crois pas, quand bien même il y aurait vote à la fin, n'oubliez pas que le CPE, par exemple, avait été abrogé après avoir été adopté face à une mobilisation de la rue trop importante.
Est-ce que le télétravail a changé aussi la donne, puisque beaucoup de Français seront en télétravail à chaque fois qu'il y aura des grèves, ce qui fait que ça peut durer plus longtemps?
Alors, d'abord, le télétravail n'empêche pas du tout d'aller en manifestation. Donc, vraiment, que chacune et chacun prenne ses dispositions. On a un rendez-vous avec l'histoire. On a un rendez-vous avec l'histoire parce que c'est une réforme extrêmement importante, une réforme de société. J'ai le droit à la retraite. C'est le droit au bonheur après une vie de labeur. Avant que nos corps soient fatigués, avant que nos têtes soient épuisées, avoir le droit à une autre vie. C'est ça qui se joue. Ou bien alors, on estime, comme le gouvernement, que nos corps, nos têtes doivent être exploitables à merci jusqu'à ce qu'on soit en fait réformé parce qu'épuisé, parce qu'on ne pourrait plus être exploité. Donc c'est vraiment un choix de société contre la logique vraiment productiviste de ce gouvernement qui veut exploiter les gens le plus tard possible. Et donc, faut bien se dire que cette vie après le travail, cette vie des retraités, elle permet plein de choses. On décide de s'occuper de ses petits-enfants, on décide, de se reposer, de se mettre au voyage, à la lecture, ou bien on s'implique dans plein d'associations, ou bien on devient conseiller municipal. Il y a plein de petits villages en France qui tiennent grâce aux retraités. Tout ça peut être mis en cause par cette réforme des retraites. Alors, il faut se dire qu'on a tous une grande responsabilité pour préserver cette retraite si importante pour nous, voilà, et s'opposer. Et si vous me permettez, je voudrais quand même dire aussi une chose sur l'aspect totalement antidémocratique par lequel le gouvernement décide d'imposer cette réforme. Parce qu'ils ont décidé donc d'user d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif pour parler des retraites, donc déjà c'est une espèce de cavalier, hein. Et puis, ils utilisent ce qu'on appelle l'article 47.1.
Alors, c'est-à-dire qu'il faut 20 jours aux députés pour se pencher sur ce texte.
En fait, c'est comme un 49.3. Le 49.3, tout le monde commence à le connaître. Hein. C'est quand Mme Borne n'est pas d'accord avec les amendements adoptés dans l'Assemblée nationale. Hop, elle arrive, elle déclenche son joker 49.3. Et c'est comme si elle avait sa télécommande et qu'elle éteignait la télé. Hop, fin des débats. Et du coup, le texte est adopté sans vote et elle peut trier les amendements qui lui plaisent ou pas. Le 47.1, c'est un article qui vise à dire eh bien, le débat sur la loi ne doit pas prendre plus de 50 jours. Donc c'est 20 jours à l'Assemblée nationale, ensuite ça passe au Sénat, il y a les différentes navettes, tout ça ne doit pas prendre plus de 50 jours, sinon le gouvernement peut agir par référendum. Mais alors, c'est totalement anticonstitutionnel d'utiliser cet article-là pour un texte comme les retraites, parce qu'en fait, c'est un article qui est fait pour garantir la continuité du paiement de l'État. Par exemple, on comprend bien que un budget de la Sécurité sociale doit être voté avant le 31 décembre, si dès le 1er janvier, il faut faire des dépenses. Bon, mais là, ce n'est pas l'objet. L'objet de la réforme des retraites ne met pas en péril le moment où ce texte peut être adopté ou pas, ne met pas en péril quelques financements de l'État. Vous voyez.
Donc, pour vous, c'est un détournement de la Constitution, cette procédure ?
C'est un détournement de la Constitution, parce que normalement, ça aurait dû être un projet de loi normal, quoi, hein, organique, quoi. Hein. Donc, c'est un détournement de la procédure totalement antidémocratique pour contrainte par le temps, faire semblant qu'on organise quand même le débat à l'Assemblée, moyennant quoi on peut très bien se retrouver à ne jamais pouvoir débattre et délibérer sur l'ensemble des articles et se retrouver avec un gouvernement qui procède par ordonnance sur un sujet aussi important que celui-là.
Daniel Simonet, cette réforme intervient dans un contexte très particulier, le contexte de l'inflation. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de ce que vivent aujourd'hui les Français, qui explique peut-être ce rejet de la réforme des retraites ?
J'ai l'impression qu'ils ne réalisent absolument pas ce qui est en train de se passer dans le pays. Ils sont totalement déconnectés. Franchement, le peuple, il souffre, il a souffert de la crise sanitaire et du Covid. Il a souffert non seulement parce que économiquement, ça a été très dur, mais psychologiquement, c'était très dur. Ensuite, il souffre de l'inflation, de l'explosion des prix, de l'énergie, mais aussi des prix des matières premières, de l'explosion des charges locatives qui sont en train de tomber là en cette fin de janvier. Enfin, la situation, elle est extrêmement dure. Tous les services publics sont à bout. Je veux dire, on meurt dans les urgences de nos hôpitaux. Les transports en commun, c'est le chaos parce qu'on n'arrive plus à recruter. Les pompiers cet été n'arrivaient pas à éteindre les incendies. Et dans l'éducation nationale, c'est la suppression des classes et des lycées à tour de bras. On est dans un contexte de très dur. Qu'est-ce qui rajoute à cela ? Cette réforme où on vole 2 ans de leur vie à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Donc là, je crois qu'ils sous-évaluent complètement la colère. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas du tout pris la mesure de ce qui se passait. Et dans le tableau, j'aurais pu en rajouter aussi sur les boulangers et tous les petits artisans qui sont en train de mettre la clé sous la porte à cause des factures d'énergie. Et vraiment, c'est important que chacun se mobilise parce qu'on peut gagner, alors on doit gagner.
Merci Daniel Simonet. Je rappelle que vous êtes député de Paris, membre de la NUPES. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.